nzamba
nzambira samirana
Nous sommes mercredi 11 août 2021. C'est encore un plaisir de vous retrouver, chers auditrices, auditeurs de la radio Nzamba, Agathe Kakawe. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les principaux titres. Cela fait trois jours que 10 membres du parti CNL sont en garde à vue au cachot de la commune Gatara, en province de Kayanza. Ils ont été arrêtés par un groupe de jeunes imbonerakure du parti au pouvoir, appuyé par un responsable administratif. Les motifs de ces arrestations ne sont pas connus. La province de Muyinga enregistre beaucoup de cas d'assassinat. 5 victimes rien que dans une durée de 2 semaines dans les communes de Mwakiro, Giteranyi et Muyinga. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvila, natif de cette province, condamne l'inaction de l'administration et du pouvoir pour arrêter les violences dans le pays. De nouveaux cas de Covid-19 dans différents districts sanitaires du pays. 375 personnes sont confirmées dans les dernières 48 heures selon le récent rapport du ministère de la Santé publique. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Alexandre Nyungeko, bonsoir, bonjour, suivant la position de votre écoute. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Page droit de l'homme pour commencer. 10 membres du parti CNL de la colline Kirenga de la commune Gatara, nous sommes dans la province de Kayanza au nord du pays, sont en garde à vue depuis ce dimanche dernier. Ils ont été arrêtés par le conseiller de l'administrateur et des imbonerakure de la localité. Ces partisans du parti CNL avaient voulu s'enquérir auprès des imbonerakure et à l'administration des raisons de l'arrestation de 2 hommes récemment rapatriés de l'Ouganda. Plus de détails avec Alice Akiman.
Les 10 membres du parti CNL ont été arrêtés dimanche dernier. La veille, ils s'étaient interposés lors de l'arrestation de 2 hommes récemment rapatriés de l'Ouganda. Il s'agissait de Eric Nsekela et Jean Miwuro. Les sources de la radio Nzamba Agata indiquaient que les membres du parti CNL ont exigé aux imbonerakure et au conseiller principal de l'administrateur, Julien Manelakiza, d'expliquer pourquoi ils ont arrêté ces 2 personnes. Ils estimaient que Julien Manelakiza et les imbonerakure de la localité jouent le rôle des officiers de la police judiciaire. Les membres du parti CNL estimaient que l'arrestation de ces rapatriés est arbitraire. Le conseiller principal de l'administrateur les accuse d'être des fauteurs de troubles. Les responsables du parti CNL dans la commune de Gatara et dans toute la province de Kayanza demandent la libération inconditionnelle de leurs membres. Ce mardi, le gouverneur de province, le colonel Rémi Tshishayo, avait effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le gouverneur de la province a ordonné le transfert de ses prévenus vers le commissariat provincial de la police à Kayanza pour enquête. Il a promis qu'après les enquêtes, ceux qui ne seront pas reconnus coupables seront directement libérés. Eric Nsekela et Jean Miburo avaient fui l'insécurité qui régnait dans le pays en 2018. Les habitants de Gatara condamnent ce harcèlement des rapatriés qu'ils trouvent contraire à la rhétorique gouvernementale appelant les réfugiés au rapatriement volontaire. La rédaction de la radio Nzamba a tenté de joindre Julien Manilakiza, conseiller principal de l'administrateur, mais sans succès.
Merci Alice. Du nord du pays, cap sur le sud, où 11 personnes ont été arrêtées par la police dans la petite matinée de ce mercredi. Toutes sont originaires de la colline Mugendondengo, dans la zone Nyagasasa, de la commune Mugamba, dans la province de Bururi. Ces personnes sont poursuivies dans l'affaire du double meurtre d'une femme et sa fille il y a 10 jours dans cette commune. Ces interpellations interviennent après l'arrestation ce mardi d'un domestique de cette famille qui avait pris fuite après le forfait. Il était considéré comme le premier suspect dans ce dossier. Les précisions avec Vanessa Mouitek.
Les informations provenant de la colline Mugendondengo indiquent que les policiers ont encerclé dans la nuit les ménages de ces personnes arrêtées. Toutes sont des voisins d'origine Niyomuru, assassinées avec sa fille dans la nuit du 1er au 2 août. Les sources policières indiquent que toutes ces personnes ont été ciblées sur indication du premier suspect de ce double meurtre, Apollinaire Ndoyedu, qui gardait les vaches de la victime. Il a été lui-même arrêté dans l'après-midi de ce mardi au quartier Rango, au chef-lieu de la province Gitega, la capitale politique burundaise. Depuis l'assassinat de Régine Niyonkuru et de sa fille, la police cherchait activement Apollinaire Douayezu qui avait disparu. La police burundaise confirme l'arrestation de cet homme. Elle fait savoir qu'il sera envoyé à Mugamba pour la suite des enquêtes. Les 11 personnes interpellées rejoignent 5 autres qui sont déjà en détention pour le même dossier. Toutes ces personnes sont incarcérées dans les cachots de la police à Mulamba, dans la commune de Mugamba.
Merci Vanessa. Des informations qui viennent de nous parvenir indiquent que 9 des personnes arrêtées ont été par la suite relâchées. 2 autres sont toujours dans la main de la police à Mugamba. Au moins 5 personnes ont été tuées au cours de ces 2 dernières semaines en province de Muyinga, dans les communes de Giteranyi, Mwakiro et Muyinga. 3 des cadavres retrouvés étaient suspendus sur des cordes. Les autorités administratives qualifient de suicide ces cas au moment où leurs proches parlent plutôt d'assassinat planifié. Les détails avec Blaise Nijimbere.
Le cas le plus récent est celui de Juvenal Niyomungere, un jeune homme âgé de 20 ans, retrouvé mort lundi 9 août 2021, pendu sur une arbre tout près de sa demeure sur la colline Kayenzi, à zone Chumba, commune Muyinga. Une source administrative à Kayenzi affirme que Niyomungere s'est suicidé, une version contredite par la famille de la victime qui suspecte un assassinat. Un autre corps sans vie d'un certain Régis de Leimana, de la colline Nobge, en zone commune Mwakiro, a été découvert le matin de ce lundi 9 août 2021, suspendu sur une corde attachée à un arbre tout près de la latrine de la maison familiale. Selon l'administration, cet homme se serait suicidé, ce que évite les membres de sa famille. Un autre corps sans vie d'une jeune fille en état de décomposition a été découvert dans l'après-midi du lundi 2 août 2021, vers 14h dans le cours d'eau appelé Ndurumu, du marais de Nakiyange, séparant les communes de Giteranyi de la province Muyinga et celle de Bwambarangwe de la province Kirundo, selon une source administrative à Mangoma. Claudine Irangunda, 20 ans, qui résidait sur la colline Mangoma, en commune Giteranyi, était partie le 28 juillet dernier pour irriguer une pépinière de riz, se trouva dans le dit marais et n'était jamais revenu. Un cadavre d'un jeune homme de 25 ans a été découvert l'après-midi du dimanche 1er août 2021, tout près de l'écofond Mangoma, sous colline Katiro, colline Mangoma, en zone Mugano de la commune Giteranyi. Noël Nibigira, 25 ans, serait tombé samedi de la dernière semaine dans une embuscade tendue par les malfaiteurs car il entrait de la commune Bwambarangwe en province de Kirundo où il venait de déposer un client. Un autre cas, celui des sexagénaires du nom de Mibou Jonathan, célibataire résident de la colline Chibare, en commune et province Muyinga. Il a été retrouvé pendu sur une corde dans la maison de son grand frère dimanche dans l'après-midi, selon une source administrative locale. Le motif de cette mort reste jusqu'ici inconnu.
Merci Blaise. Cette criminalité galopante à Muyinga ne laisse pas l'opposition indifférente. C'est le cas de Frédéric Evambouignouvila, ancien vice-président et natif de cette province. Il indique que le pouvoir a intérêt à s'en démarquer au risque d'être pris pour complice de ces crimes. On l'écoute.
La criminalité aujourd'hui commence à monter plus d'un cran et on peut se poser la question pourquoi. La question de pourquoi peut avoir plusieurs réponses. La première hypothèse, si sur le terrain il y a des gens qui sont tués et que l'administration ne dresse qu'un rapport et que la justice ne dresse qu'un rapport, parce qu'en principe si quelqu'un est tué, il y a le ministère public qui doit intervenir et condamner les criminels, mais ce n'est pas cela que nous voyons. Alors maintenant, si rien n'est fait, ça veut dire que l'administration de la base au sommet est incompétente. Il y a des personnes incompétentes qui ne comprenaient pas leur mission. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, il faut quand même aussi la juger, la comprendre, l'approfondir. Si des autorités laissent des crimes se perpétrer sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que l'autorité est derrière cela. Et pourquoi? Peut-être on peut penser qu'elle est en train de préparer les élections de 2025-2027 et que dans l'entretemps, ils doivent préparer le terrain pour qu'il n'y ait plus d'obstacles, qu'il n'y ait plus des personnes de l'opposition. Et comme ça a été observé en 2020, et que c'est le moment de se préparer. Mais comme on ne peut pas le faire juste une année avant, il faut aller petit à petit et écarter les obstacles et en fait traquer la population pour qu'elle soit absolument envahie complètement par la peur. Je crois que c'est cela, c'est la deuxième hypothèse. Si ce n'est ni l'une ni l'autre, la solution c'est quoi? Que l'autorité prouve qu'elle est compétente et qu'elle n'est pas impliquée dans ce qui se fait sur le terrain. Parce que si rien n'est fait, pratiquement, elle s'apprête à être jugée tôt ou tard. Maintenant, pour éviter qu'elle soit jugée tôt ou tard, il faut qu'elle évite justement ce genre de comportement. Nous l'attendons sur le terrain. Dès lors qu'ils apprennent ce message, que nous voyons des comportements qui changent, on comprendra que finalement, il y a des problèmes qui s'opposent, mais qui peuvent être réglés, que ce n'est pas le pouvoir qui est à la base, que les problèmes s'opposent autrement.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie. Il est important de savoir que les personnes vaccinées peuvent être contaminées et peuvent contaminer à leur tour les autres.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Parlons santé à présent. Avec la montée des cas de COVID-19 dans le pays, 375 personnes sont confirmées atteintes du COVID-19 dans les deux derniers jours dans différents coins du pays, sur plus de 7500 tests effectués selon le rapport du ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida, publié ce mardi 10 août. Le district sanitaire de Kirundo est le plus affecté avec 59 cas positifs au COVID-19 sur 424 tests avec un taux de positivité de plus de 13%. Les districts sanitaires de Kibumbu et de Muramvya connaissent un taux de positivité élevé également allant jusqu'à 25%, le point avec Beni Akselakan.
Ces chiffres résultent des tests effectués sur 23 sites de dépistage, dont 3 situés dans la mairie de Bujumbura et 5 localisés au point d'entrée sur les frontières et l'aéroport. Pour donner quelques exemples, les 3 sites de Bujumbura mairie totalisent 76 cas positifs sur 1103 tests réalisés. Le district sanitaire de Kirundo affiche un taux de positivité de plus de 13%, soit 78 cas confirmés sur 568 tests effectués. Les districts de Kilemba, Gitega et Muyinga viennent avec respectivement 59, 52 et 45 cas de COVID-19 sur 424, 588 et 601 tests. Les districts sanitaires de Luyigi et Lutana enregistrent 20 et 13 cas de COVID-19 sur 118 et 84 tests effectués. Pour tous ces cas, le ministère de la Santé signale un taux de positivité moyen égal à 6,48%. Il affirme qu'au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 330 cas de COVID-19 sur 4057 tests, chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie au Burundi, avec un taux de positivité de 8,13%. Au total, la moyenne journalière de cas de COVID-19 rapportée depuis le 21 juillet 2021 date de début du constat de la recrudescence, la notification d'un nombre élevé de cas de COVID-19 est de 160 cas, alors que cette moyenne journalière était de 30 cas avant le mois de juillet. En plus de ces résultats obtenus en 48 heures, le ministère signale un cumul de ces derniers jours, c'est-à-dire plus de 1450 cas confirmés sur près de 26 000 tests effectués, soit un taux de positivité de plus de 5%. Dans tous les districts sanitaires contactés par la radio Inzamba, les responsables de ces districts, qui ne sont pas autorisés à livrer les statistiques sur la pandémie, contestent les chiffres publiés par le ministère parce qu'ils attestent qu'ils sont inférieurs aux vrais résultats.
Merci Beni Akfela. Nouvelle des réfugiés burundais, c'est toujours des protestations chez les réfugiés du camp de Murungwe. Nous sommes en République démocratique du Congo. Cela est dû aux mesures prises dans une réunion de ce lundi des responsables du ACR et des autorités administratives interdisant les réfugiés à ne plus sortir du camp. Un des réfugiés contactés par la radio Nzamba indique que cette mesure va durcir la vie dans le camp. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDH Vicar, condamne cette mesure qui prive aux réfugiés le droit de vaquer à leurs activités quotidiennes. Le point avec Christine Kaniwabo.
Au cours de cette réunion tenue ce lundi et qui regroupait les responsables du ACR, des autorités administratives et de la police, 4 mesures importantes ont été prises. Il s'agit notamment de la suspension des autorisations de sortie aux réfugiés jusqu'à nouvel ordre et la sensibilisation de ces réfugiés pour qu'ils ne se rendent plus à Kavimvira ou Vira Sange, etc. Selon ces nouvelles mesures, les réfugiés en dehors du camp seront arrêtés. Les policiers et les agents de sécurité dans le camp, les Sungusungu, sont appelés à veiller au strict respect de ces mesures prises. Un de ces réfugiés explique ici que c'est une forme de torture.
Cette mesure d'interdire aux réfugiés de se rendre, par exemple, à Rubonge, Uvira, Kamanyura, Bukavu, Misisi, Fizi, Baraka, Kalunja et autres, est une façon de prendre en otage les réfugiés, comme ils ont déjà annoncé qu'il est interdit de délivrer des autorisations de sortie et que tous les agents de sécurité sont déjà au courant. C'est une forme de torture instaurée envers les réfugiés burundais situés dans des camps du Congo.
Ces réfugiés trouvent également que ces mesures pourront engendrer un manque de nourriture dans la mesure où les vivres ne sont pas distribués régulièrement. Ils demandent aux autorités du HCR et ceux du pays de revoir ces mesures.
Quand nous avons même des autorisations de sortie, ils nous dépouillent nos biens. Il nous arrive même qu'on passe 2 mois sans avoir une assistance alimentaire et les réfugiés se dépouillent en cherchant à l'extérieur de quoi mettre sous la dent. Nous demandons au HCR de revoir cette mesure.
La coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés, CDBH, VECAR, déplore ces mesures prises contre les réfugiés. Léopold Charangabo, le vice-président de cette coalition, constate qu'elle vise un rapatriement forcé.
Si on analyse bien, on voit que ces mesures à l'encontre des réfugiés burundais montrent que la RDC veut forcer les réfugiés burundais de rentrer plutôt que de nous dire qu'ils veulent bloquer les réfugiés qui rentrent illégalement. La RDC veut tout simplement aider au gouvernement burundais qui veut montrer souvent à la communauté internationale que les réfugiés burundais sont en train de rentrer. La CBDH-VICAR déplore énergétiquement cette mesure de prendre les réfugiés comme prisonniers. Nous demandons au gouvernement congolais de se ressaisir sur cette décision. Nous demandons aussi au HCR de plaider pour ces réfugiés, étant donné qu'il est au courant que l'assistance alimentaire les parvienne à goutte d'eau.
Le camp de Murongwe compte plus de 10 000 réfugiés burundais selon les statistiques du HCR. La radio Inzamba n'a pas encore eu la réaction des responsables du HCR et les autorités administratives pour plus d'éclaircissements sur ces mesures.
Merci Trifine. Le gouvernement tanzanien est en train de violer les droits internationaux protégeant les réfugiés. Déclaration de maître Janvier Bigilimana après que 80 familles des réfugiés n'ont pas été transférées du camp de Mutende vers celui de Nduta ce lundi pour des raisons qui n'ont pas encore été communiquées. C'est au moment où leurs maisons ont déjà été démolies. Maître Bigilimana demande au gouvernement tanzanien de trouver une solution pour ces familles qui dorment à la baie d'Étoile. On l'écoute.
C'est pas la première fois que la Tanzanie viole ses obligations internationales en matière de protection des réfugiés et plus particulièrement pour le cas des réfugiés burundais. Et pour le cas de ces 80 familles, nous déplorons encore une fois qu'ils sont en train d'être maltraités. La Tanzanie est en train de violer encore une fois la Convention de Genève de 1951 en rapport avec la protection des droits des réfugiés. Et cette convention précise, particulièrement en son article 20, que l'État hôte doit pourvoir les aliments nécessaires à des réfugiés et qu'en aucun cas, l'État n'a pas le droit de donner des aliments qui sont indécents à ceux que l'État accorde aux nationaux, même en cas de pénurie. Cela veut dire que ce qu'est en train de faire l'État tanzanien, nous pensons que le fait que ces réfugiés ont été délogés et qu'ils n'ont pas pu trouver où ils puissent loger encore une fois. Ils rencontrent beaucoup de difficultés, notamment quant à l'alimentation, quant à l'accès à l'eau et quant à l'accès à toutes les conditions d'entretien qui sont nécessaires pour pouvoir maintenir la bonne santé. Quant à l'article 21 de la convention mentionnée, il est précisé que l'État hôte doit réserver un traitement aussi favorable qu'est possible et sans être moins favorable à celui qui est accordé aux États. étrangers en général. C'est-à-dire que la Tanzanie abrite tant d'autres réfugiés ou d'autres étrangers, elle n'a pas le droit d'aller en deçà à ce qu'elle accorde aux étrangers en matière de logement. C'est-à-dire qu'il y a des efforts supplémentaires qu'elle doit fournir pour protéger les réfugiés burundais en question contre les conséquences du manque de logement. Et nous en appelons donc à la responsabilité des autorités tanzaniennes et surtout lui rappeler que la violation des conventions internationales que la Tanzanie a déjà ratifiées peut amener à une responsabilité directe de l'État tanzanien face aux juridictions internationales, face aux mécanismes internationaux de protection des droits humains.
Inzamba.
La jeunesse burundaise est appelée à travailler ensemble pour l'autodéveloppement afin d'éviter de dépendre des autres financièrement. C'est un message du ministre de la Jeunesse, Ezekiel Nibigira, dans une conférence de presse à la veille de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée ce jeudi au Burundi. Les festivités auront lieu en province de Gitega. Suivez le ministre Ezekiel Nibigira.
Nous encourageons les jeunes à l'entrepreneuriat, à monter leurs propres entreprises, à participer dans des travaux de développement, à créer des projets bancables et d'autodéveloppement, à cibler les filières porteuses dans leur milieu de vie et à créer leur propre emploi et éviter les ligalas et le système de mendiants, lutter contre la pauvreté et s'investir pour leur autodéveloppement et le développement de leur patrie. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux jeunes l'importance de mettre leurs efforts ensemble pour travailler dans des coopératives, associations et groupements de développement. Nous invitons également les jeunes en général et les jeunes ruraux en particulier à se lancer positivement dans l'utilisation de la technologie, de l'information et de la communication pour leur épanouissement et leur autodéveloppement.
À cette occasion, le mouvement international de la jeunesse burundaise lance un appel à la jeunesse burundaise d'éviter de sombrer dans la barbarie souvent entraînée par les hommes politiques. Selon Étienne Boutouille, le délégué adjoint de ce mouvement, la jeunesse est l'avenir et le pilier du développement du pays si elle n'est pas manipulée. On l'écoute.
Nous voudrions lancer un appel à la jeunesse burundaise de pouvoir centrer la force à la construction. Parce que souvent on entend que, ici chez nous au Burundi, certains jeunes affiliés au pouvoir, des jeunes Imbonerakure, sont pointés du doigt dans les forfaits qui se commettent, dans la torture, dans le piémat des biens et tout consort. Ce que nous disons dans le mouvement, ces jeunes, ils ne sont pas tirés dans une télémétière, ils ne sont pas non plus venus du ciel. Ce sont nos amis, ce sont nos cousins, ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes. Nous leur demanderons de pouvoir orienter cette force dans la construction du pays pour que notre pays puisse avoir la paix.
Et voilà, c'est sur ce message de son représentant de la jeunesse que je mets un point final à ce journal. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.